Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Tout d'abord, quelques excuses. D'habitude, j'enregistre mon homélie, puis-je dire, dans les tout premiers jours de décembre, de chaque mois, mais là, j'ai eu quelques ennuis informatiques, je suis donc en retard. À la veille de cette défaite de Noël et de fin d'année, je vais encore faire ouvrir une parenthèse dans mon exposé sur les commandements de Dieu, gardant le premier commandement, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et du culte qui lui est dû, pour le début de l'année prochaine. Pour aujourd'hui, je voudrais revenir sur un article que j'ai écrit pour le 8 décembre 1993, c'est-à-dire il y a 16 ans, un moment où je quittais la présidence du Cercle civique européen conformément au statut. J'écris cet article que j'ai intitulé « Le piège se referme ». J'ai été frappé en le relisant de voir qu'il ne semblait pas avoir pris une seule ride. Je vous lis donc cet article qui, je répète, a été écrit il y a 16 ans. Notre fin de siècle paraît bien une de ces époques charnières comme on n'en connaît qu'une fois tous les 4 ou 5 siècles. Après la contre-réforme, la chrétienté semblait remise d'une grande crise, bien que les guerres de religion l'eussent prolongée de plusieurs dizaines d'années. Mais immédiatement, l'ennemi se remit à l'ouvrage, et ce fut le siècle des Lumières, que l'on ferait bien mieux d'appeler le siècle des Ténèbres. Destruction méthodique de tout surnaturel. Les deux figures de proue de cette époque, qui ne furent probablement pas les instigateurs, mais les plus brillants héros des temps modernes, résument assez bien la suite des événements. Il s'agit évidemment de Voltaire et de Rousseau, le libéral et le socialiste, celui pour qui la liberté individuelle est un absolu, en particulier la liberté de commercer de tout, y compris du travail humain et de la dignité de la famille, et celui qui remet tout entre les mains de l'État, seul capable d'être le garant véritable d'une valeur humaine. Valeur d'ailleurs estimée nulle dès qu'il s'agit d'opposants. On l'a bien vu au moment de la terreur. L'idée d'un gouvernement mondial était déjà en germe chez nos deux compères qui se haïssaient cordialement mais se retrouvaient en plein accord pour la démolition programmée de notre société. Depuis, la réalisation du gouvernement mondial a été reprise par le monde anglo-saxon, plus pragmatique et qui disposait de l'aide incomparable des loges maçonniques. On connaît la suite. Élimination successive des royautés en commençant par les plus catholiques, France, Autriche-Hongrie, ou orthodoxe, Russie. Promotion du suffrage universel qui permet de placer des hommes liges aux postes clés les plus en vue. Il faut bien trouver un financement aux frais gigantesques des campagnes électorales. Et on sait bien que celui qui paie est celui qui commande. Mainmise sur la grande presse, même réflexion, car il n'est pas tant que les journaux sont vendus en dessous de leur prix de revient, ils ne survivent que grâce aux agences de publicité ou à des aides, il vaut mieux ne pas trop élucider. Dernièrement, on assistait à l'accélération de l'histoire. Suppression des empires coloniaux qui a laissé des peuples entiers dans la misère à la merci d'exploiteurs sans vergogne, et généralisation de la démocratie, c'est-à-dire, tel qu'on l'entend, de gouvernements de parvenus régissant leur pays sans aucune considération pour les traditions qui en constituaient l'armature. Enfin, soumission universelle à la loi du marché, c'est-à-dire au règne de l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire l'argent, avait dit le Christ. Plusieurs de mes amis hongrois et polonais m'ont dit en substance, peu après la chute du mur, que nous a apporté l'Occident, l'insécurité, la drogue et la pornographie. Enfin, démolition systématique de notre enseignement tant supérieur qu'élémentaire, sous le fallacieux prétexte d'égalité, on assiste à un véritable massacre de ce qui devrait devenir des élites. Avec les accords de Maastricht et du GATT, le piège se referme. Le pouvoir mondial tient en ses mains la culture, des cervelages universels grâce au cinéma et à la télévision, et l'agriculture, on l'a bien vu dernièrement avec l'affaire du lait. Une fois en possession de ces deux atouts, le dit pouvoir est à même de tuer par la faim tous ceux qui ne marchent pas droit, avec la bénédiction de tous les moyens de communication dûment asservis. Ainsi que l'annonçait l'Apocalypse, nul ne pourra commercer s'il n'est marqué du signe de la bête. Qu'on essaie de produire un film ou d'écrire un livre à la gloire des vertus traditionnelles, de la patrie, de la virginité, de la fidélité dans le mariage, ou simplement de l'honnêteté, ou de la politesse et de la civilisation, et on verra toutes les grandes portes se fermer, de manière à ce que de telles obscénités restent confidentielles. Qu'on lise seulement les arguments des films ou des romans si l'on doute de ma parole. Quant à la possibilité d'affamer des populations entières, que l'on pense simplement au paradoxe qui oblige les pays européens à mettre leurs terres en jachère pendant que l'on multiplie les quêtes pour la faim dans le monde. Notre société a renié la dimension spirituelle de l'homme. Seuls restent en présence le libéralisme et le socialisme qui se combattent et se détruisent l'un l'autre en engendrant leur contraire suivant l'antique mythe grec. Dans ce combat hégélien, il n'y aura jamais de synthèse, car il s'agit de deux idéologies, de deux idoles sanguinaires, comme toutes les idoles, combien de morts provoquées par le très libéral avortement, aussi fallacieuses l'une que l'autre, car toutes deux châtrent l'homme de sa dimension principale, qui est sa dimension spirituelle. Notre société est donc dans un cul-de-sac, dans une impasse tragique. J'ai lu dernièrement « Notre société part en vrille ». Le seul prophète de notre temps est le pape, c'était à l'époque, c'était Jean-Paul II, qui crie à temps et à contre-temps qu'il est temps de rendre leur place à Dieu et à l'homme en tant qu'image de Dieu. Humainement parlant, la partie est perdue, car Satan a toutes les cartes en main. Les instances internationales, les gouvernements, les journaux, la radio, les films, la télévision, tout lui est acquis. La vulgarité, la pornographie, le blasphème, le vice sont glorifiés sous tous nos murs, sur tous nos écrans. On ne peut éviter l'inévitable. Il faut bien vivre avec son temps. On ne peut revenir en arrière, etc. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera, nous assurer notre mère. Nous devons donc combattre avec confiance, sans chercher à utiliser les armes de nos adversaires, mais tout en restant prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Témoigner de la vérité sans crainte et sans respect humain, laissant à Dieu le soin de décider de la date de notre inéluctable victoire. Voilà ce que j'écris il y a 16 ans. J'ajouterai qu'on peut penser que la situation de ces guerres améliorée, la famille notamment est attaquée d'une manière absolument épouvantable. Notre société est devenue hémiplégique, ne donnant plus de liberté qu'à la décadence et à la pourriture. Les discussions au sujet de ce que l'on continue à appeler la famille sont symptomatiques. À quand le mariage d'un homme et d'une chèvre? Ce serait si joli un voile de marié sur les petites cornes de la chèvre. Il y a néanmoins plusieurs signes de renouveau, analogues à ces petits bourgeons que l'on distingue en allant ramasser des champignons dans un tapis de feuilles mortes en décomposition. Plusieurs associations sont en plein effort. On recommence à parler de spiritualité et surtout, le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI, est un pape extraordinaire qui ose prêcher l'union de l'amour et de la vérité, ce qui nous change de la religion du désir et du relativisme, qui prétend que chacun secrète sa vérité comme l'escargot sa coquille. Notre Saint-Père a rappelé que Dieu, incarné par amour, a proclamé « Je suis la vérité, quiconque est de la vérité écoute ma voix ». On est à l'opposé des sondages, des campagnes d'opinion et autres turlupinades. Je dis tout de suite que nous n'avons, moi personnellement, aucun pouvoir, aucune autorité particulière. Je ne suis qu'un humble chrétien du rang. Mais j'ai en mémoire ce qu'a dit Solzhenitsyn, bien isolé, au milieu d'une société épouvantable, avant d'être mis sous boisson par nos autorités libérales. Solzhenitsyn disait, quoi qu'il vous en coûte, il ne faut jamais mentir. Dire toujours la vérité. C'est ainsi qu'il a contribué à l'effondrement de la tyrannie socialiste. Ne jamais mentir, mais aussi être aimable, souriant, ne pas manquer une bonne action lorsqu'elle se présente, qu'il s'agisse de ramasser les lunettes d'un infirme tombé par terre, les lunettes, ou de prendre en main la vie d'un abandonné pour quelques jours, ou de ramener chez elle une vieille à la maison. Et naturellement, prier, messe, chapelet, toute autre dévotion, pour se mettre sous le regard de Dieu et être prêt à le servir, même et surtout dans les petites choses. Saint Joseph n'a fondé aucun monastère, n'a fondé aucune œuvre, n'a pas écrit de traités extraordinaires, ni prêché par-delà les mers. Tous les jours, il a simplement accompli la tâche qui lui était demandée, son devoir d'État. Il est patron de l'Église. Pardonnez-moi de ce prêchi-prêcha. J'irai même plus loin. en me prenant pour un prophète, et en disant, Dieu dit, vous n'avez pas voulu de moi, vous m'avez chassé de la société, vous m'avez chassé de vos écoles, vous m'avez chassé de la famille, je n'existe plus pour vous, dans vos journaux, dans votre radio, on ne fait même pas mention de mon existence. Eh bien, je reviendrai. Mais au lieu de revenir sur le petit d'une ânesse et de vous dire que vous n'êtes plus mes serviteurs, mes amis, je reviendrai derrière le sabre que l'on voit sur le drapeau vert de l'Arabie Saoudite. Vous serez non plus mes amis, mais mes esclaves. Abdel signifie esclave. Esclave du victorieux, esclave de l'unique. Vos femmes qui jouent avec leur corps devront se revêtir de voiles, devront ne plus montrer leur visage, être enfermées dans les pièces. Vous ne prierez plus l'encensoir à la main, mais le derrière en l'air et la bouche dans la poussière, en train de supplier le Tout-Puissant qu'il ne vous écrase pas. Mais un jour, vous reviendrez à moi. Un jour, vous laverez de vos fautes et je vous accueillerai à nouveau dans mes bras, comme le Père accueille le Fils prodigue, et vous serez plus à nouveau mes serviteurs, mes amis. Voilà ce qui m'est pris pendant une des insomnies qui traque le vieillard toutes les nuits. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, et j'espère que ce temps béni reviendra vite. Au revoir, à l'année prochaine.